des thèmes du fantastique et du merveilleux. Par conséquent, la définition se base sur d'autres mots bizarres qu'il faut eux-mêmes définir. Si on pousse les recherches dans les encyclopédies, on trouve des choses très intelligentes, bien que un peu rébarbatives, avec beaucoup d'historique sur cette fameuse fantaisie. De l'historique, on va en faire un petit peu tout à l'heure, on va vous reprendre les bases et d'où vient la littérature de la fantaisie. Je vous passe les textes complets pour ne conserver que l'étymologie. Le mot fantaisie, IE, existe, c'est une orthographe francisée, depuis 1450. Ça, c'est pour tous les délateurs qui nous disent que la fantaisie, c'est un truc qui vient de sortir. 1450, c'était pas bien. La fantaisie Y se rapporte au mot fantasia en grec, qui veut dire apparition, image, qui s'offre à l'esprit, imagination. Les dérivés de ce mot sont fantasme, fantasmagorie et fantastique. Alors là, le mot est lâché, fantastique. Est-ce que fantaisie et fantastique, pour vous, c'est la même chose ? Eh bien non. Comme le fantastique et la fantaisie ne sont pas pareils, comme nous allons le voir, ce sont deux termes très proches, on pourrait aussi dire qu'ils s'opposent. J'ajouterai juste une petite précision. Cette différence, on l'a fait dans notre pays beau, pays, dans les pays francophones, mais en Angleterre et dans les pays anglophones, ils ne font pas de distinction. Ils appellent tout littérature de l'imaginaire ou fantastique. Et là-dedans, ils mettent tout. Ils mettent aussi la SF. C'est pour ça que, par exemple, si vous prenez Folio SF, eh ben, ils publient tout sous la même bannière. Ils ne font pas de différence. Ils publient en même temps de la SF pure, de hardcore. Ils vont publier des trucs assez... comme Gaiman, par exemple, hein, qui a été très très loin, dans Neverwhere. Et en même temps, juste à côté, ils vont publier du Marion Zimmer-Bradley, qui, elle, fait de la science-fantasy, de la fantasy pure. Alors après, je vous fais grâce à des superbes définitions trouvées ça et là. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des trucs super sympas, des pavés, des choses un petit peu compliquées. Moi, j'en aime une qui est très sympa, c'est celle de André-François Rouault qui dit que la fantaisie est une littérature d'imagination entre merveilleux et fantastique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous présenter la fantaisie à travers la littérature merveilleuse et la littérature fantastique. Sylvain, qui est juste à côté, va vous faire un petit topo sur la SF et vous montrer qu'en fait, toutes ces littératures, elles se croisent et se mélangent. On va faire un petit retour sur le passé. La première piste de comparaison sera un retour à travers les textes des différents genres. La fantasy émerge comme un genre nouveau dans la seconde moitié du XXe siècle, en 1965. Est-ce que vous savez qui est à ce moment-là l'auteur qui va faire émerger la fantaisie?
Tolkien
sort effectivement en 1965. En France, il va falloir attendre 1972 pour découvrir cet auteur, mais 1965, c'est la clé. C'est à partir de là qu'on considère qu'il y a de la fantaisie dans le monde de l'imaginaire. Donc c'est le Seigneur des Anneaux. Ce livre a envoûté les lecteurs et a créé un véritable engouement proche de l'idolâtrie pour la fantaisie épique. On va voir un peu plus tard que c'est un peu à double tranchant cette fantaisie épique. Comme en témoigne la création de groupes d'études, de revues, de bulletins consacrés à l'univers Tolkien. L'influence de cette œuvre sur l'ensemble du genre ne s'est par la suite jamais démentie et de nombreux auteurs de ces mouvances reconnaissent avoir été inspirés par cet auteur qu'ils ont soit pris, ils ont pris directement à la base, hein, ils ont pris les elfes de Tolkien. Il y a combien de bouquins, combien de livres qui sont sortis, combien de films qui sont sortis avec les elfes de Tolkien, avec les nains de Tolkien, avec les orques. Je suis sûre que parmi vous, il y a forcément des gens qui ont lu des livres qui sont inspirés directement de Tolkien. À la même époque, même s'ils sont moins connus, on retrouve Mervyn Peake. Quelqu'un connaît Mervyn Peake? C'est très très bon, si vous voulez découvrir de la vraie fantasy un peu hardcore, c'est sympa. Avec un monde parallèle baroque et fantastique, donc c'est très sympathique et bien. Les précurseurs du genre datent du siècle précédent. D'après vous, qui sont les précurseurs? Bah, pourtant, il y a des gens qui sont super connus. Si je vous dis Alice au Pays des Merveilles, donc c'est Lewis Carroll en 1865. Si je vous dis William Morris, déjà c'est un peu moins connu, c'est 1894, c'est The World Beyond the World, c'est le monde à travers le monde, et c'est très très sympa. Il y a l'imam Frank Baum, Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette odeur-là? Tant tout le monde, je suis sûre que vous l'avez tous vu à la télé, ou même a été voir dans les cinémas, c'est le magicien d'Oz. C'est 1900. Il y a Lord Busani, ça c'est un peu moins connu, c'est la fille du roi des elfes, mais cet auteur-là, il est très sympa, et il faut vraiment le découvrir si vous aimez la fantasy, parce qu'il réunit déjà tous les critères de base de la définition, c'est-à-dire qu'on va retrouver un monde imaginaire, un bestiaire fantastique, et de la magie. Et après, il y a le livre qui a fait que la fantasy n'est pas forcément appréciée, voire un petit peu sapée. C'est Conan le Cimmérien, Conan le Barbare, et qui donne en fait la sensation à tout le monde que la fantasy, c'est des gros bourrins qui tapent. C'est pas que ça. Donc c'est Robert Hermine Hayward, c'était en 1932. Par contre, il incarne une grosse mouvance aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs encore actuellement aux États-Unis qui font ce qu'on appelle le sort des sorcières, c'est-à-dire épées et sorciers, et qui restent dans cette mouvance de Conan le Barbare avec des textes lourds, forts. Vous avez Gemelle, par exemple, s'il y en a qui connaissent, qui fait des trucs assez sympas. Et effectivement, c'est de la fantasy épique, lourde, avec des gros combats, des gros muscles, de la guerre. Il n'y a pas de romance à l'intérieur, il ne faut pas les chercher. En comparaison, si on prend le genre fantastique, donc on a vu que la fantasy, effectivement, les précurseurs étaient dans les années 1880-1900. Si on prend le fantastique, d'après vous, qui serait le précurseur du fantastique? Alors, le précurseur du fantastique, et c'est très intéressant parce qu'il va aussi être considéré comme un précurseur de la SF, c'est Frankenstein, c'est Mary Shelley, c'est 1818.
Donc, Frankenstein, c'est considéré comme plus ou moins le premier roman de science-fiction, aussi une des premières autrices, je ne sais pas trop comment il faut le dire maintenant, de fantastique, bien qu'on a tendance à l'opposer à Dracula, qui est considéré comme plus ou moins le premier roman fantastique. Il y a d'autres auteurs qui précèdent Dracula, Dracula date de la fin du siècle, je crois que c'est 1897. Il y a des auteurs qu'on classe aujourd'hui, qu'on trouve dans les rayons de littérature générale, qui font de la littérature fantastique. Avant, Bram Stoker, qui était donc un anglais qui a écrit Dracula, ces auteurs, ils étaient un petit peu affiliés au mouvement de la littérature romantique du 19e siècle. Je pense à Joris Carl Wiesmann, qui a écrit un roman qui s'appelle Là-bas. Je pense évidemment à Guy de Maupassant. Je pense évidemment en France aussi à Théophile Gautier. Voilà. Comment tu dis voilà. Carmilla de Steve. Oui, de Maupassant, très bien. Alors, de Stéphanie. Voilà. Vous ne l'avez pas entendu ? Donc, de Stéphanu, c'est le nom de famille de l'auteur. Le roman s'appelle Carmilla, et c'est le premier roman de l'Empire. Il y a aussi, évidemment, Hoffman, qui lui était un Allemand et qui a écrit une grande quantité de contes fantastiques qui sont très intéressants. Vous ne le regretterez pas, je pense. Et évidemment, au 19e siècle, Edgar Poe, qui a écrit essentiellement des contes, on va appeler ça des contes, mais ce sont des nouvelles, qui étaient publiées dans des revues aux États-Unis et qui a été traduit par notre ami Charles Baudelaire. Pour la science-fiction, on a tendance à donner le point de départ avec Mary Shelley. En France, on a Jules Verne et Herbert George Wells en Angleterre, qui sont les deux gros pères fondateurs de la science-fiction. On a aussi la représentation, je le dis, parce qu'il y a depuis quelques années un mouvement, un travail qui est mené par Jean-Guillaume Alaric pour exhiber la littérature de science-fiction anglo-saxonne. On a tendance à penser que la science-fiction, c'est une littérature anglo-saxonne qui est arrivée, qui a émergé essentiellement aux États-Unis avec toutes les revues qu'on appelait pulp, les Amazing Stories et tout ça, avec des auteurs comme Paul Anderson ou Clifford Simak ou plus tard Dan Vogt, Asimov, etc. etc. Il faut savoir qu'il y a une vraie tradition de science et fiction, c'est-à-dire de littérature qui s'appuie sur l'exploitation fantasmée, plus ou moins réaliste, des progrès technologiques, qui commence évidemment avec Jules Verne, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres auteurs français ou francophones, comme Jacques Spitz, comme Maurice Renard, comme Guillaume Maurice Leblanc, aussi, qui a écrit tous les Arsène Lupin. Il a aussi fait quelques romans de fantastique ou de science-fiction. On trouve aussi, vous savez, ce monsieur qui a écrit La Guerre des Fonds, qui s'appelait Romy Lémé. Alors, encore une fois, je ne sais pas trop. Il était belge, lui. Je sais pas, comme je ne suis pas belge, je ne sais pas trop s'il faut dire Romy ou Rosny. Il y a un S dans le même. Donc, à travers même toute l'Europe, il y a une vraie littérature qui est en train. Qui est en train que certains essaient de faire réapparaître. Le terme robot, par exemple, c'est un terme qui vient du Tchèque, qui a été créé pour une pièce de théâtre de science-fiction qui s'appelait R.U.R., Rur, qui est d'un auteur tchèque qui s'appelait Karel Čapek. Čapek, encore une fois, je suis désolé, je ne parle pas tchèque, et je ne sais pas comment on prononce son nom, vu que je ne fais que le lire. Et que je me suis inventé la prononciation. Il y a aussi une littérature russe, il y a un ouvrage dont on parle beaucoup depuis quelques années, qui s'appelle « Nous autres », qui est de certains Evgeny Zamyatin, et qui est une sorte de pré-1984, qui lui est paru en 1955. Voilà. Ce qui n'empêche que, petit à petit, c'est la SF anglo-saxonne qui a pris le pas, parce que d'une façon générale, les Anglais, les Américains, ils sont quand même forts, donc forcément, on les met sur le devant de la scène. Voilà, pour ce qui est de l'encart fantastique et science-fiction, je repasse le micro à Linda pour la fantaisie.
Alors, est-ce que vous faites le distinguo entre les trois nuances ? Littérature fantastique, littérature fantasy, littérature SF. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui serait prêt à donner une définition simple des trois ?
Surnaturel des événements qui sont décrits dans le livre, le roman ou l'écrit. Je pense par exemple à Hurla de Montpassant. Après, pour ce qui est la différence entre science-fiction et fantasy, en fait, je me base beaucoup sur la définition de Georges Martin qui dit qu'en fait, tout ce qui fait la différence entre fantasy et science-fiction, en fait, c'est le mobilier. Donc quand on a un mobilier plutôt médiéval, ça va être du coup fantasy, et quand le mobilier est plus futuriste ou moderne, ça va plutôt être science-fiction. Mais là-dessus, par contre, c'est vrai que si vous avez votre avis...
Personnellement, je suis assez d'accord avec cette définition. Il faut savoir que il y a de nombreux amateurs de science-fiction qui ne le sont pas. On s'oriente beaucoup, de plus en plus.
Et de fantasy non plus qui ne le sont pas.
On s'oriente de plus en plus vers une science-fiction qui serait scientifiquement et techniquement exigeante. Et en tout cas, tous les lecteurs et auteurs et éditeurs de science-fiction, on a tendance à considérer que la science-fiction est une exploitation vraiment réaliste et qui se veut plausible de tous les progrès techniques. Mais sinon, je suis assez d'accord avec cette définition pour moi, c'est le mobilier qui fait la différence.
Alors, en fantasy, en fait, on axe plutôt sur la magie. Parce que vous pouvez avoir maintenant, et vous allez en trouver, et c'est pas nouveau, parce que ça existe depuis 1960, des thématiques qu'on va appeler de la science fantasy. Donc, vous avez un film qui est hyper connu, une série de films qui sont hyper connus. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel film serait de la science fantasy? C'est Star Wars, tout simplement. Et donc Star Wars, c'est pas que du mobilier, mais Star Wars, vous avez de la science-fiction et de la magie. Et c'est donc ce qu'on appelle la science-fantasy. Donc c'est pour ça que la définition de Gérard Martin, en fait, elle bloque un petit peu, elle limite un peu les genres. Parce que Star Wars, il y a du médiéval à l'intérieur, d'accord, mais il y a aussi des trucs super futuristes. Alors en fait, si on prend les définitions, par exemple, la définition de Anne Besson, si je vous la retrouve, forcément, je me suis perdue dans mon plan. Et je la retrouve pas. Ah, c'est là. La fantaisie n'est en aucun cas un sous-genre du fantastique. Ce dernier se définit comme l'intrusion du surnaturel, c'est ce que vous venez de dire, dans un cadre réaliste. Autrement dit, l'apparition de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du lecteur, de l'irréel dans le réel. Et la fantaisie serait l'opposé, ça serait du réel dans de l'irréel. En fait, la fantaisie, tout ce qui se passe pour les gens qui le vivent, c'est-à-dire pour les acteurs du livre, les acteurs du film, pour eux, c'est normal. Voir débouler un dragon, ça ne va pas les perturber. Enfin, ça va leur faire un petit peu peur, parce que forcément, c'est un peu gros comme bestiole, mais ça ne va pas les perturber. C'est normal. Par contre, nous, si on voit débouler un dragon, c'est la différence entre les deux, elle est là. C'est en fait, si l'un s'oppose à l'autre. Le premier, la fantastique, ça va être de l'irréel qui arrive dans le réel. Ça va être des événements qui vont venir perturber le monde, alors que pour la fantaisie, c'est le contraire, c'est du réel qui se passe dans de l'irréel. Et là, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à mélanger les genres, vous avez un genre qui est à la frontière des deux, c'est souvent ce qu'on appelle l'urban fantasy, et c'est Harry Potter, par exemple, qui est le premier, qui va être celui qui va dénommer le style, puisque vous avez à la fois de l'irréel qui arrive dans le réel, pour les moldus, et puis vous avez pour les gens qui ont des dons, pour eux, tout ce qui se passe, c'est normal. Ok ? C'est réducteur, hein, mais c'est pour que vous suiviez un petit peu plus. Si on reprend un petit peu le fantastique, actuellement le fantastique est en train de glisser. Donc il y a des mouvances qui sont en train de se créer dans le fantastique lui-même, avec une mouvance qui est en train de glisser vers l'horreur et le thriller. Des auteurs comme Stephen King, par exemple, qui sont à la fois classés dans le fantastique et à la fois classés dans le thriller. Cette séparation, au départ, elle était très marquée, et vous avez de plus en plus d'auteurs qui jouent sur les deux tableaux. Vous avez par exemple en France un auteur qui s'appelle Sir Cédric. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Oui, voilà, Sir Cédric, il fait du polar, thriller, fantastique. C'est-à-dire que vraiment, il mêle des événements complètement surnaturels dans une enquête policière qui pourrait être tout à fait classique. Il fait des choses qui sont assez sympas, je vous invite à le lire, à découvrir ce qu'il fait. Un auteur un peu plus littérature blanche, entre guillemets. C'est Guillaume Musseau. Guillaume Musseau, il fait de la littérature blanche, mais à l'intérieur, il balance régulièrement du fantastique. Après la fantasy, donc on a vu qu'elle n'était pas du fantastique, on a vu qu'elle n'était pas de la SF, elle n'est pas non plus du conte et du merveilleux. Le conte et le merveilleux, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce sont tous les contes de notre enfance, que ce soit avec les princesses et les chevaliers. Anne Besson, qui a donné la définition que je vous ai lue tout à l'heure, elle considère que la fantaisie est une incarnation moderne et le prolongement de la littérature du merveilleux, mais que ce n'est en aucun cas un sous-genre du fantastique. Dans la fantaisie, la magie et les univers surnaturels sont acceptés comme naturels et rationnels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du réel dans de l'irréel. Le roman fantaisie serait alors une sorte de conte merveilleux avec des règles. C'est là la différence. On revient tout à l'heure sur la première définition de la fantaisie, hein, où je vous disais qu'en fantaisie IE, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait raconter ce qu'on voulait. Ces genres se ressemblent par le thème important de la quête initiatique. Dans les livres de fantaisie, souvent, on va retrouver une quête. Si vous prenez Le Seigneur des Anneaux, c'est la quête de Frodon. Si vous prenez Harry Potter, on va avoir la quête d'Harry. Vous avez plein d'autres livres comme ça. Si vous, la Belle Gariade, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la Belle Gariade? David Eddings? Non? Pareil, c'est une épopée, c'est il y a je ne sais plus combien, il peut y avoir 10 ou 12. Oui, il y en a beaucoup. L'épée de vérité? Ouais, ben c'est pareil, hein, il y en a je ne sais pas combien, je me suis arrêtée au 15e, donc il y en a encore après. Cette quête est souvent signalée dans les contes sans être détaillée. Si vous prenez par exemple La Belle au bois dormant, on sait que le prince qui arrive et qui va la réveiller, il est en quête. Mais on ne sait pas de quoi. Il arrive, il est là, il casse les ronces, il rentre, il embrasse la princesse, et c'est tout. On ne sait pas quelle est sa quête, elle n'est pas détaillée, on sait juste qu'il est en quête de quelque chose. En l'occurrence, il va trouver l'amour, c'est bien sympa. En fantaisie, la quête, elle va être le thème principal du livre. Souvent, c'est ça. En fait, on va détailler la quête et on va un peu laisser tomber tout le reste. Si vous êtes dans de la fantaisie épique, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Conan le Cimérien, tout le reste à côté, ça n'existe pas. Il n'y a pas le monde n'est pas détaillé, il n'y a que l'aventure du personnage avec ses combats, avec... à la télé, il y a effectivement un petit peu de romance chip-chip, mais dans les livres, elle n'est pas. La romance, hein. Alors, le risque majeur pour la fantaisie, si on reste dans ses clous ou dans ses cases, bah, c'est de réécrire toujours la même chose. Alors, heureusement, comme je vous disais, les auteurs s'amusent et cassent les rythmes, cassent les codes et inventent des nouveautés. Vous avez des gens qui vont faire de la fantaisie rigolote, comme Pratchett, par exemple. Vous connaissez Pratchett ? Déjà, le principe de base de Pratchett, il est extraordinaire. Quand une tortue qui porte des éléphants qui portent une terre, déjà, moi, je trouve ça génial. c'est extraordinaire. Vous avez d'autres auteurs, comme Strout, par exemple, qui va faire la série Barthémus. C'est très rigolo aussi, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Les auteurs ont choisi, au fur et à mesure de la fantaisie, de sortir de ce carcan, de la quête, d'un monde imaginaire avec une quête et avec bestiaire fantastique. Vous avez maintenant des livres de fantaisie qui sortent où il n'y a pas de bestiaire. Il n'y a pas, on ne retrouve pas d'orques, on ne retrouve pas de licornes, on ne retrouve pas de dragons. Il n'y a que des personnages et leur vie. Après, vous avez des auteurs qui vont changer, qui vont aller mixer un petit peu les deux. Vous avez par exemple Georges Martin, c'est Georges R. Martin, c'est ça ? Georges R. Martin, le trône de fer, où effectivement, on sait qu'il y a une bestiole quelque part, elle est là-bas, derrière le mur. Mais tout le reste, finalement, il n'y en a pas dans le livre. C'est que des rapports humains, des combats, un gros combat politique. Ok ? Après, quand vous avancez dans la série, ils apparaissent, hein, les bestioles. Là, je parle du tome 1, je parle pas de... J'ai perdu le temps. C'est pas grave. En fait, si les personnages dans les contes, puisqu'on est toujours en la fantaisie en parallèle aux contes merveilleux, si les personnages dans les contes sont très schématiques et caricaturaux, on a la belle princesse, le chevalier, le preux chevalier, la méchante sorcière ou la marâtre, la fantaisie elle offre un panel beaucoup plus large et plus nuancé de caractères. Sans oublier les nouveaux romans, et comme je vous disais, les livres humoristiques. Le lecteur peut donc s'attacher et s'identifier facilement au héros, même si les petites filles continuent à s'identifier aux princesses. Libéraux ? Non, pas libéraux. Toutefois, on retombe souvent dans les caricatures globales. Non, tu veux pas être libéraux ? Avec des schématisations, les orques restent méchants, les elfes restent bons, les dragons aiment protéger leur trésor et un nain n'aimera jamais un elfe. Alors, sur ça, je vous invite à lire Adrien Thomas, qui a fait un truc extraordinaire qui s'appelle La Geste de je sais plus, et où justement il casse tous ces codes-là, et c'est très très rigolo, c'est super bien fait. Il a été pris des imaginables, c'est pas pour rien. Voilà, je vais juste peut-être passer sur les différentes formes de fantaisie. Je ne vais pas vous développer parce qu'il reste très peu de temps. Actuellement, il y a trois grosses mouvances en fantasy. Il y a ce qu'on appelle la high fantasy, c'est-à-dire que ce sont ceux qui vont rester un petit peu dans les codes qu'a donné Tolkien, avec la fantasy épique, plus ou moins hard, c'est-à-dire qu'ils vont être très soft, ou alors aller vraiment sur des trucs un peu à la Gemelle, avec des gros combats et des trucs sympas. Si vous voulez découvrir vraiment de la très très bonne fantasy, je vous invite à lire Sanderson, par exemple, qui fait vraiment des trucs extraordinaires. Vous avez effectivement David Gemmell, comme je disais tout à l'heure. Vous avez l'auteur qui vient de mourir, malheureusement, qui s'appelle Ursula K. Le Guin, et qui a fait une série qui s'appelle Terre-Mère. Si vous aimez les dragons, ça peut être très sympa à découvrir. Voilà, je vous passe les autres. Si vous aimez les longues, c'est très très longue, un peu comme a fait Goodkin, ben vous avez aussi Robin Hobb, qui fait de la fantasy qui est très humaniste, très sympa à découvrir. Après, on a la deuxième mouvance qui va s'appeler la low fantasy, en opposition. La low fantasy, ça va être la cible de départ de tous les livres qui sont sortis après J.K. Rowling. Voilà. Le précurseur, c'est Harry Potter. Et après, vous avez plein de livres qui sont sortis. Vous avez Percy Jackson, par exemple, qui se base sur du mythique, sur la mythologie. Vous avez À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui est très sympa à découvrir. Dans les Français, ben, vous avez ce livre-là, ça c'est moi. Vous avez Pierre Bottero qui a fait toute la quête des Whelan, le pacte des marchands, c'est pareil, c'est très sympa, on a beaucoup pleuré quand il s'est scratché en moto. Vous avez Vincent Bilmaud. Alors par contre, Vincent Bilmaud, c'est pas pour les jeunes lecteurs, hein. Je le précise de suite, parce qu'il va très très loin dans ce qu'il écrit, donc c'est minimum 14 ans. Et vous avez la série, la saga Oscar Pollock aussi, par exemple, c'est Anne Pichotta qui fait ça et Sandrine Wolfe à découvrir. Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et après, vous avez ce que je reviens tout à l'heure, je ne veux pas vous les reciter, mais c'est la fantasy humoristique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je terminerai par la fantasy en France. Actuellement, vous avez des mouvements qui sont en train de sortir sur la fantasy francophone, puisqu'on s'aperçoit qu'on est noyé dans la masse. On est un petit peu sous-considéré. Les gens, quand ils disent « Ah bon, ouais, non, mais... » Alors, effectivement, dans les librairies, vous trouvez pratiquement que des Anglais. Mais vous avez des très, très bons éditeurs en France qui s'attachent à faire de la vraie bonne fantasy française. Vous avez ActuSF, vous avez La Talente, c'est la première maison d'édition de fantasy qui est sortie en France. Vous avez Brachelot qui vient d'ouvrir depuis maintenant 5 ans à des auteurs français avec des textes assez sympas. Vous avez Sébastien Guillermou, par exemple, Jean-Sébastien Guillermou, par exemple, qui fait des choses très sympas, qui est à cheval entre la science-fiction et la fantaisie, à découvrir si vous ne connaissez pas. Vous avez des auteurs steampunk, par exemple, comme Catherine Loiseau, qui fait des choses très très sympathiques aussi. Vous avez des auteurs plus ou moins connus, vous avez Jean-Claude Demiac, vous avez Nathalie Do, vous avez des gens comme ça qui font des choses très sympathiques à découvrir. C'est des auteurs français, c'est pas traduit. Vous perdez pas le potentiel de langage. Le problème actuellement quand, dans les traductions, c'est que souvent on perd un petit peu de la langue source. Si vous êtes capable de lire en anglais, je vous invite de relire Harry Potter en anglais. Et là, vous allez voir, vous allez découvrir un livre extraordinaire, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui a été traduit. Il y a des jeux de mots qui ne sont pas traduits en français. Il y a plein de choses comme ça, par exemple. Je parle à Harry Potter parce que c'est peut-être le plus facile pour ceux qui sont débutants en anglais ou qui n'ont pas un niveau extraordinaire. Pour découvrir, c'est quand même pas mal. Voilà. Actuellement aussi, il y a ce qu'on appelle le printemps de la littérature francophone, avec des gens qui lisent que des auteurs français de fantasy, science-fiction et de fantastique. Voilà. J'espère qu'on vous a donné un petit aperçu de ce que c'était la fantasy aujourd'hui et maintenant. Je vous souhaite une bonne journée et un bon soir.